Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton et Garance Nunoz, mais aussi Samuel Bernard et Tiffaine de Roquigny, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Élise Le. Deuxième temps de notre série consacrée aux métaux. Hier, nous évoquions la manière dont la Chine était parvenue à organiser la dépendance des autres pays sur les terres rares et l'avantage que cela constitue pour Pékin. Demain, nous nous pencherons sur les conséquences environnementales et sociales de l'extraction minière. Jeudi, nous aborderons la question délicate de la répartition des revenus miniers. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux questions financières, le marché des métaux. Un marché comme les autres ?
Bonjour, voici le point matière première du lundi 29 janvier 2018.
Côté valeur en tête du SBF 120, Eramet continue de profiter de la bonne orientation des cours de métaux et de l'annonce de la Chine qui a dit anticiper une demande forte en cuivre en 2018 après une année qui a vu les cours du cuivre bondir de 25%.
Depuis quelques mois, les cours du fer, du cuivre et de l'étain sont nettement repartis à la hausse et ont rendu le moral à tout un secteur jusque-là en panne d'investissement.
Depuis septembre dernier, le prix du cobalt a augmenté de plus de 50%. En 2016, la demande mondiale de cobalt a dépassé l'offre.
L'aluminium, c'est le plus gros volume d'échange, mais le cuivre, c'est le plus volatile.
Et oui, l'année 2017 a été une très bonne année pour les métaux. Elle a vu l'augmentation des prix de nombreux métaux, le cuivre, plus de 30% sur un an, le nickel, l'aluminium, mais aussi des métaux plus rares comme le cobalt ou le palladium, dont les valeurs se sont envolées de plus de 50% l'année dernière. Depuis les années 2000, le cours des métaux ne cesse d'augmenter, sous l'effet de la croissance de la Chine notamment, qui consomme de plus en plus de ces matières premières. Certains métaux concentrent tout particulièrement l'intérêt des investisseurs, le lithium, gallium, indium, tungstène, cobalt et d'autres encore. La liste est longue de ces métaux mineurs ou majeurs en train de devenir des métaux dits critiques pour les industries de pointe et les nouvelles technologies, au point qu'on peut se demander comment le marché des métaux s'adapte à cette nouvelle donne. Le marché réglementé, en premier lieu le London Metal Exchange, mais aussi le marché des métaux mineurs, secteur sur lequel la Chine tire son épingle du jeu, ainsi que le marché non organisé des ventes de gré à gré qui concentre un grand nombre de transactions là aussi. Alors comment fonctionnent les marchés des métaux, parce qu'il y en a plusieurs? Quels sont les enjeux, les perspectives compte tenu de l'émergence des nouvelles économies et de la montée en puissance de technologies particulièrement gourmandes en métaux? Au-delà des cours, c'est aussi la question de l'approvisionnement, de la rentabilité des exploitations minières qui apparaît. Entre transparence et opacité, comment s'organise la rencontre des industriels, producteurs et des consommateurs? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité ce matin Didier Julienne. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes stratège en ressources naturelles, professeur à l'école de guerre économique, ancien trader en métaux stratégiques. Vous avez contribué régulièrement aux Échos, mais aussi à de nombreuses revues économiques. Didier Julienne, d'abord peut-être un premier mot, parce que vous avez écouté l'émission d'hier sur la question des terres rares qui ne va pas occuper la majeure partie de cette émission. On va s'intéresser au marché et à la manière dont il s'organise aujourd'hui, mais vous vouliez nous dire peut-être quelques mots sur cette émission d'hier consacrée aux terres rares, Didier Julienne.
Oui, l'émission d'hier consacrée aux terres rares, je voulais vous raconter une petite anecdote parce qu'il y a quelques jours, des amis me demandent si j'ai participé au livre de la personne qui était invitée hier.
Guillaume Pitron.
Et ils ajoutent, ce livre attisse toutes les thèses que tu nous racontes depuis 20 ans. En plus, ils te citent et puis l'auteur te remercie. Alors, c'est vrai que je suis surpris parce que je n'ai jamais contribué à ce livre en aucune manière. L'un des amis me prête ce livre, je le lis et je suis troublé à sa lecture parce que j'y retrouve, à mon avis, des erreurs, des approximations, des caricatures sur le cuivre. Par exemple, lorsque je lis que les chiffres qui sont cités abandonnent 30% de la production mondiale de cuivre, ça me gêne parce que je me dis à ce moment-là, la terre ne tourne plus très rond. Le côté misanthropique de la Chine vis-à-vis des terres rares, le palladium dont la consommation serait multipliée par 7, le tungstène, le lithium, l'absence de la Russie, tout ça. Je dis bon, là je ne peux pas apporter une caution à l'utilisation de mes thèses.
On entend bien Didier Julienne et en même temps la thèse principale du livre de Guillaume Pitron, qui me paraît quand même fort intéressante, qui est celle, et que vous défendez également, qui est celle que finalement on sort avec le pétrole d'une certaine dépendance et pour entrer dans une nouvelle dépendance, celle des terres rares, qui n'est pas moins dramatique. Cette thèse-là, vous la portez, vous et lui,
bien entendu.
Didier Julienne. Intéressons-nous peut-être à la question des marchés, des métaux en général. Vous avez entendu le petit montage sonore qu'on vous a proposé. Quand on regarde un peu les choses, choses. En première intention, on voit que depuis le début des années 2000, en l'espace de 20 ans en gros, même si évidemment il y a eu des fluctuations, on va mettre de côté un peu les périodes de crise, les cours des métaux ne cessent de globalement progresser. Comment comprendre cette montée globale des cours et qu'est-ce qu'elle vous semble nous dire sur l'état de notre monde, sur l'état de notre économie mondiale, Didier Julien ?
Eh bien, prenons l'exemple du cuivre, par exemple. Lorsqu'on le regarde, les prix du cuivre il y a 10 ans, puis les prix du cuivre au moment de la crise de 2008, puis les prix du cuivre encore récemment lorsqu'ils se sont légèrement comblés, voire effondrés, on s'aperçoit qu'ils étaient à 1 500 $ il y a 10-15 ans lorsqu'ils étaient au plus bas. Au milieu de la crise de 2008, ils sont à 3 000 $ au plus bas. Aujourd'hui, le plus bas qui a été atteint, c'est 4 500 $. Donc vous voyez qu'à chaque plus bas, on a en fin de compte gagné 1 500 $. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça exprime ? Ça exprime d'une part que pour produire du cuivre, ça coûte plus cher que par le passé, parce que les gisements sont moins riches, plus profonds, plus éloignés. Et puis, ça exprime également que la consommation de cuivre est aujourd'hui beaucoup plus importante que par le passé.
Et la demande a augmenté, et notamment tirée par les besoins de la Chine. C'est peut-être l'un des principaux facteurs qui explique cette montée globale. La Chine, qui est le premier producteur et le premier consommateur de métaux en général.
Exactement. Ouais. Il consomme et affine quasiment plus de 50% de tous les grands métaux, hein, tous les grands métaux qui sont le cuivre, l'aluminium, le nickel, le zinc, etc., d'une part. Et puis d'autre part, très récemment, cette année, enfin plutôt en 2017, la Chine a décidé que l'environnement primait sur la production. Et donc a décidé de fermer certaines de ces usines qui produisent des métaux, métaux qui proviennent soit de mines chinoises, soit des métaux importés de l'extérieur. Et en les fermant, eh bien, elle raréfie la quantité de métal disponible et donc les prix ont augmenté.
Mais on a de toute façon une tendance globale qui est que cette demande va continuer à s'accroître et donc a priori, en tout cas c'est ce que nous disent un certain nombre d'experts, les prix vont continuer à augmenter parce que la demande augmente. On est dans ce qu'on appelle un super cycle, c'est les experts qui en parlent.
Oui, moi je me suis exprimé à propos du super cycle et contrairement à certains, j'ai toujours dit que le super cycle n'était pas terminé.
Ouais.
Loin de là.
Et pourtant, si on regarde la fin de l'année 2017, globalement, il y a un certain nombre de marchés de cours des métaux qui a un peu ralenti. Le cuivre, le zinc, le nickel, l'aluminium, ça a un tout petit peu fléchi. On pourrait l'interpréter comme le début de la fin du super cycle.
Absolument pas. Vous prenez une période de temps de 15 jours, 3 mois, qui n'a rien à voir avec une période beaucoup plus longue de 20 ans. Il faut replacer les cycles des métaux dans les cycles miniers. 10 à 15 ans pour développer une mine, ça signifie que le cycle pour juger du prix d'un métal, c'est 10 à 15 ans. Lorsque vous avez besoin de plus de nickel, plus d'aluminium ou plus d'un autre métal, eh bien, vous devez attendre 10 à 15 ans, le temps que, un, on le découvre et deux, on le mette en production.
Et parfois, évidemment, on dit que le métal, c'est un bon baromètre de l'économie mondiale. Le cuivre, notamment, que vous avez évoqué, c'est un bon indicateur. Et l'année 2017 a été la meilleure depuis 2010, signe peut-être que la crise de 2008 est bel et bien finie, qu'elle est derrière nous. En tout cas, on peut l'interpréter comme ça.
Oui, moi je suis d'accord. En ce qui concerne les métaux de base, la crise est assez largement derrière nous, d'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, la demande, ou plutôt l'offre de production de cuivre, de nickel, etc., a tendance à se raréfier compte tenu de l'environnement chinois.
Ce qui est intéressant, Didier Julien, aussi, c'est que quand on regarde les métaux qui sont utilisés par un pays, en réalité, on peut mesurer d'une certaine manière le stade de développement d'un pays en fonction des métaux qu'il utilise, du cocktail de métaux qu'il utilise.
Exact, tout à fait exact. Le meilleur baromètre reste l'acier. N'est-ce pas ? Lorsqu'on le regarde la consommation d'acier, par exemple, en Inde et en Europe, on s'aperçoit d'un trou gigantesque. Et au milieu, entre l'Inde et l'Europe, vous avez la Chine, la Corée, qui montent petit à petit, ou qui ont partiellement atteint le niveau européen. Et c'est la raison pour laquelle la Chine, aujourd'hui, fabrique 50% de l'acier.
Didier Julien, alors les métaux s'établissent sur des marchés, les prix des métaux s'établissent sur des marchés différents. Globalement, je crois qu'on peut distinguer trois familles, vous me corrigez si j'ai tort, mais on a les métaux précieux comme l'or, l'argent dont on parlera tout à l'heure, pour lesquels la cotation de référence est celle du London Bullion Market Association qui deux fois par jour établit des prix de référence.
Exact.
On a les métaux dits non ferreux, c'est-à-dire l'aluminium, le cuivre, le plomb, le zinc, etc., qui là, bon, pour la majorité en tout cas, passe par le London Metal Exchange, entre 80% à peu près.
De moins en moins.
De moins en moins.
De moins en moins, parce que environ 5 à 10% de ces métaux passent par un marché, Le reste va directement du producteur au consommateur. Mmh. Donc, ce sont 5 à 10% des métaux qui font le prix. Mais Londres cède la place à Shanghai.
On en parlera peut-être plus en profondeur tout à l'heure. Et puis, les autres principaux métaux, l'acier, l'inox, le fer, etc., eux font pas vraiment l'objet de cotations en bourse et sont échangés directement par des contrats entre acheteurs et vendeurs. Mais on a là, en gros, on peut découper les choses comme ça, Didier Julien, trois logiques de variation des prix assez différentes.
Trois organisations de marché très différentes. Pour le LBMA, le London Metal le London Bullion Market Association, des opérations de gré à gré. Comme on le disait auparavant en France, sur le comptoir, n'est-ce pas, hein. Je vous vends, je vous achète, personne n'est au courant. D'autres opérations, le LME, marché organisé, avec des règles très strictes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de manipulation de prix. Et puis, le troisième, qui a tendance à devenir hybride, le fer est aujourd'hui coté à Singapour. Mais ça n'est pas vraiment une cotation physique comme l'a été le LME. C'est plus des options, plus des marchés vraiment financiers. L'acier, vous avez raison, est assez peu reconnu comme un métal qui est coté sur un marché organisé. Mais nous avons quand même des statistiques qui sont intéressantes parce que le but de ces marchés, bien entendu, c'est d'établir un signal de prix. N'est-ce pas? Un signal de prix reconnu par tous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une grande partie des métaux ne passent pas par ces marchés parce qu'ils vont directement du producteur au consommateur.
Mais ils ont besoin d'avoir un prix défini.
Mais ils ont besoin d'avoir un prix défini, d'où l'intérêt de voir une partie de ces métaux passer par le prix. Mais surtout, ces marchés nous donnent des statistiques sur les volumes. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur les métaux dits mineurs. L'ennui, c'est que c'est le plus souvent des opérations de gré à gré sur les marchés, les métaux mineurs, sans quasiment aucune statistique sur les volumes. Donnez-moi la production mondiale d'indium. Bah, vous allez voir, les gens vont dire, tiens, il y a un grand point d'interrogation, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de statistiques réelles. On va vous donner des estimations. Et d'ailleurs, le prix de l'indium, c'est un peu la même chose. Vous avez, comme sur la Bourse de Paris, certains métaux qui sont dont le prix est fixé par un fixing, hein, et qui est, comment dirais-je, au vu de tout le monde. Mais pour d'autres métaux qui sont publiés dans différentes revues, on fait un sondage. Vous avez un journaliste du journal en question qui appelle plusieurs traders, consommateurs, voire producteurs, et qui leur demande « Avez-vous traité tel métal ?»« Oui, non. » Alors, si vous l'avez traité, est-ce que vous pouvez me donner un prix? Oui, non. Si on lui donne un prix, est-ce que c'est le prix exact? N'est-ce pas? Donc vous voyez que c'est un signal de prix qui est parfaitement biaisé par rapport à un vrai prix. C'est d'ailleurs ce qui avait provoqué des ennuis sur le prix de l'uranium à une époque et qui a, par ricochet, provoqué des ennuis chez Areva.
Didier Julien, parmi les hausses des cours dont on a parlé pour l'année 2017, il y a quelques métaux qui se sont particulièrement distingués. Je pense par exemple au cobalt, plus de 70% sur l'année. Je pense au palladium, qui a augmenté d'un peu plus de 50% sur l'année 2017. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces si fortes augmentations? Est-ce qu'on est là dans un jeu de spéculation? Est-ce qu'on a d'autres choses derrière? Il va falloir qu'on évoque la question de la mobilité électrique, parce que tout ça pèse de façon très prégnante sur l'évolution des cours. Didier Julien.
C'est un mélange des deux. Vous avez d'une part une consommation industrielle qui augmente et c'est lié à la mobilité électrique, comme vous le dites, sur le cobalt, mais également sur le lithium, par exemple, hein. Et d'une certaine manière sur le manganèse. Ça, c'est assez clair. Je vous rappelle que, par exemple, Volkswagen a essayé de faire des contrats d'approvisionnement directement avec l'un des mineurs qui produit du cobalt en République démocratique du Congo, qui s'appelle Glencore. Et puis Glencore a dit à un moment, mais bon, moi je veux bien, ou je ne veux pas, peu importe. Mais en tout cas, je ne vois pas ce pays qui produit la plus grande partie du cobalt mondial multiplier sa production par 3, ce qui est envisagé en fonction de la demande, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un vrai problème.
Ça veut dire qu'on va manquer de cobalt? Par exemple,
c'est une très bonne question.
De cobalt, de lithium, parce que c'est des éléments évidemment dont on va avoir besoin pour nos batteries des voitures électriques.
J'ai récemment écrit un article sur le lithium parce que ça m'intéressait plus que le cobalt, parce que le lithium est un marché un peu plus profond dans lequel on peut lire un peu mieux ce qui s'y passe. Justement, ça dépend vraiment de la demande. Si les voitures électriques ont un taux de pénétration de 8%, 13%, ou 25%, la consommation de lithium passe de, disons, 700 000 tonnes par an à 1 300 000 tonnes. Par conséquent, vous imaginez bien qu'en face, vous avez des gens qui doivent produire, des mineurs, qui sont répartis dans le triangle andin que tout le monde connaît.
Chili, Argentine, Bolivie.
Voilà, pour les lithiums qui viennent de la montagne des Salars.
Mais aussi un peu d'Australie.
Mais aujourd'hui, le plus grand producteur, et celui qui deviendra le plus grand producteur, c'est l'Australie. Parce que là, ça vient d'une mine et ils gèrent leurs ressources de manière différente. Donc, si les producteurs peuvent répondre à cette demande, ça peut effectivement s'équilibrer.
Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Est-ce qu'ils le pourront sur le lithium, par exemple?
Et aujourd'hui, je ne peux pas vous garantir.
Vous pouvez pas nous répondre.
Non, je ne peux pas vous garantir parce que ça dépend de leur projet. Aujourd'hui, il faut bien avouer que les Australiens mettent des bouchées doubles pour pouvoir en produire. Ils expédient même d'Australie des minerais, de deuxième classe, non traités, pour qu'ils soient traités en Chine, et qu'ensuite, ça rentre dans la chaîne d'approvisionnement. Mais demain, ils comptent produire du lithium directement en Australie. Donc, tout dépend du taux de pénétration des véhicules électriques.
C'est quand même un énorme problème, Didier Julien, ce que vous nous racontez, parce que on nous répète à l'envi qu'on doit basculer dans le régime du tout électrique le plus vite possible, qu'il faut produire et vendre des voitures électriques. On nous dit par ailleurs qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que les prix vont diminuer à mesure qu'on va maîtriser de mieux en mieux cette technologie. Or, vous nous dites-vous que les métaux dont on a besoin justement pour faire ces voitures électriques vont se faire de plus en plus rares, ce qui, a priori, va avoir comme conséquence assez directe d'augmenter le prix de la voiture électrique.
La perspective est en réalité
très incertaine.
Oui, je ne vous dis pas que les métaux vont devenir de plus en plus rares.
Dites que vous ne savez pas l'offre pourra répondre à la demande.
Ça ne signifie pas que les métaux vont devenir de plus en plus rares. Simplement,
si tout le monde ne peut pas être servi, ils vont devenir rares pour certains.
Ils peuvent devenir rares pour certains, mais si tout le monde est servi, tout va bien. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée dans le platine et le palladium, n'est-ce pas ? Lorsque la catalyse automobile a été obligée d'adopter le platine et le palladium dans les années 90, cela s'est fait, contrairement à la maladie de l'acier qui s'est déroulée sur environ un siècle, de la tour Eiffel aux villes chinoises, pour le platine et le palladium, ça s'est fait en quelques années. La catalyse a commencé en Californie. Platine, palladium consommé en Californie. Petite consommation. Puis petit à petit, vers tous les États-Unis. Puis enfin vers l'Europe. Et enfin le reste du monde. À un moment, lorsque j'étais sur ces marchés-là, nous avons eu un crack, si je puis dire, parce que on ne pouvait plus être livré de palladium et de platine en physique dans les usines. Il n'y en avait plus assez. En d'autres termes, il y avait eu trop d'opérations spéculatives, trop d'opérations papier, trop de métal avait été mis en dehors du marché industriel et il y a un shortage qui a été créé. Alors, il a été résorbé assez rapidement parce que, bien entendu, les prix ayant explosé, tout d'un coup, tout est revenu sur le marché. Mais c'est donc déjà arrivé. Nous avons eu des situations comme celle-là sur le nickel. Nous avons eu des situations comme celle-là sur d'autres métaux. Actuellement, on a cette situation de crise sur le lithium et sur le cobalt puisque les prix ont été multipliés par 3 et 5. Donc, actuellement, nous avons cette situation. Est-ce que vous avez vu un industriel qui s'est plaint de non-livraison? Est-ce que vous avez vu un industriel en panne aujourd'hui parce qu'il n'a pas reçu assez de cobalt et assez de platine? Pourtant, on est en crise. Non. Donc, le marché se réorganise. Une partie des métaux qui sont immobilisés en ce moment chez les spéculateurs reviennent sur le marché.
Quand vous dites que le marché se réorganise, il y a aussi des éléments qui ajoutent à l'incertitude, mais qui finalement font que vous ne pouvez pas nous répondre non, il n'y aura pas suffisamment de métaux. C'est que d'abord, on essaye de trouver des technologies de substitution.
Bien entendu.
Que par ailleurs, on lance des nouveaux projets de gisements. Alors même si ça peut mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans, des projets sont en ce moment en cours et il y a bien un moment où ils vont arriver sur le marché. Donc il y a aussi tous ces paramètres-là qu'il faut
diminue,
prendre en compte.
Bien entendu, on diminue la quantité unitaire de métaux critiques par appareillage. Lorsqu'on fabriquait auparavant une filière en platine, auparavant la filière était en platine massif, si je puis dire, utilisée par une société par Saint-Gobain pour fabriquer de la fibre de verre. Plus tard, c'est devenu une filière avec un réfractaire plaqué platine. Les batteries aujourd'hui de voitures électriques, auparavant utilisaient beaucoup de cobalt, aujourd'hui beaucoup moins, et plus de nickel ou de manganèse. Donc la recherche avance. Là, il faut faire confiance aux ingénieurs. Je regrette parfois que les ingénieurs ne prennent pas assez la parole dans ces domaines, n'est-ce pas ? Mais une chose est certaine, nous aurons plus de voitures électriques à l'avenir. Donc on aura plus de métaux immobilisés. Et dans le même temps, il faut arriver à diminuer les quantités unitaires de métaux, voire à les substituer avec autre chose. De cobalt, par exemple, avec des batteries au fer, des batteries avec d'autres métaux, voire des batteries qui ne contiennent plus du tout de métaux.
Ouais, donc ce qui est intéressant, ce qu'on entend dans votre propos, c'est que finalement le caractère critique de tel ou tel métal dépend beaucoup de l'environnement, évolue au cours du temps, et qu'il est très difficile de dire à un moment, ce métal-là, c'est un métal critique, et il le sera encore dans un temps. C'est très compliqué.
Vous avez évoqué... Ce qui est encore plus compliqué, c'est de définir les métaux critiques par rapport aux métaux stratégiques. Et là, il y a des définitions qui existent. Et je crois que lorsqu'un métal critique devient stratégique, c'est-à-dire qu'il rentre dans la politique d'un État, là, ça devient vraiment un vrai problème.
On va évoquer dans un instant le London Metal Exchange. Mais avant, vous avez évoqué la question des stocks. Oui. Parce qu'évidemment, oui. Pour éviter la rupture d'approvisionnement, il y a quand même un outil qui est assez pratique et qui permet aussi de jouer sur la hausse ou sur la baisse de ces métaux, c'est le stock. Il en existe pour quasiment tous les métaux, je crois. Quel est aujourd'hui, que représentent ces volumes en proportion par rapport aux volumes qui sont échangés chaque année? Et vous avez l'air de dire, j'ai lu ça dans un article à vous, que ces stocks, c'est une solution qui est fragile. C'est ce que vous disiez, c'est le terme que vous avez utilisé, et que par ailleurs, la gestion des stocks stratégiques des métaux n'a pas toujours été satisfaisante. D'ailleurs, à tel point que certains pays, comme je crois la France, l'ont un peu abandonné. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans cette question des stocks?
Les stocks stratégiques des États doivent être gérés au jour le jour par une fonction publique, l'État, donc, qui doit avoir une vision à long terme. C'est ce paradoxe-là qu'il faut résoudre. La Chine le fait très bien. Pourquoi ? Parce qu'elle achète, mais elle vend également de ses stocks lorsqu'elle estime que le métal n'est plus stratégique ou plus critique. Donc elle fait une étude permanente en fonction des marchés. Aux États-Unis, ils ont un peu abandonné cette gestion dynamique. En Corée, au Japon, ils l'ont. En France, lorsque nous avons vendu nos stocks stratégiques de platine et de palladium, je le sais, j'étais aux premières loges, puisque moi je recevais les offres, si je puis dire, de la Banque de France qui le vendait à l'époque, et qui disait, aujourd'hui je vends X kilos de platine, X kilos de palladium, qui veut les acheter ? Contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là, c'est plus des banques qui les ont achetés plutôt que les Chinois, puisqu'à la même époque, moi, les Chinois me vendaient leurs métaux, ces mêmes métaux. Je ne les vois pas acheter nos métaux, notre platine, notre palladium du stock stratégique et puis en même temps me vendre leur platine et palladium de leur mine. Il y a des choses qui m'étonnent. Donc, c'est compliqué à gérer. Il faut le gérer dans le court terme avec une vision à long terme par des gens qui doivent être, par essence, sur les marchés. Or, en France, ça n'existe pas. Et c'est fragile parce que il faut avoir des règles juridiques pour les utiliser. En France, nous avions un stock stratégique, mais aucune des règles juridiques pour les utiliser. À qui est-ce qu'on donne ces stocks s'il y a un problème? De quelle manière? À quel prix? Sous quelles conditions? Tout ça n'avait pas été écrit. Et par conséquent, ces stocks qui avaient pour origine la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale sont devenus soudainement obsolètes. Les dividendes de la paix, la disparition du mur de Berlin, tout ça a fait en sorte que ces stocks...
C'est une erreur, il faudrait revenir à une gestion étatique de stocks.
Il faudrait revenir surtout à une meilleure contribution entre le secteur privé qui consomme ces métaux et une vision de l'État qui souhaite s'y investir. Aujourd'hui, on n'a pas l'un, on a peut-être l'autre.
On va parler... du London Metal Exchange, donc oui. 80% des transactions, quand il y a transactions boursières, se passent du côté de Londres.
C'est le geste de la main, on appelle ça les tic-tac, et ça permet de baisser le niveau du bruit, de façon à ce que ceux qui opèrent à l'intérieur du ring puissent se concentrer.
C'est une tradition, ce qui compte ici, c'est la confiance. On négocie les yeux dans les yeux, on fait le deal, il n'y a pas de retour en arrière. C'est plus transparent, on ne peut rien cacher.
Voilà, extrait d'un reportage qui avait été diffusé sur LCI, cette bourse aux métaux de Londres qui a été épargnée d'une certaine manière par l'électronique et l'informatique qui fonctionne encore sur le principe de la criée. Didier Julien, pourquoi cette spécificité?
La criée?
Oui.
C'est l'histoire anglaise qui souhaite, ou britannique, qui souhaite conserver cette idée. Je trouve que c'est une idée qui est assez plaisante, bien que quand même, faut bien l'avouer, beaucoup d'électronique est tout de même passé par là depuis que la bourse de Londres a été rachetée par un investisseur de Hong Kong.
Oui.
À Hong Kong, et à Shanghai également, tout ça est complètement électronique. Et le grand débat qui a eu lieu en 2017 au LME, au London Metal Exchange, c'est le faire évoluer de façon à ce qu'il quitte petit à petit le marché physique, donc le marché industriel, et qu'il évolue vers le marché des investisseurs parce que...
Alors attendez, je pose la question autrement dit, Julienne. Oui. Quelle spécificité la vente à la criée donne à ce marché-là? Est-ce qu'en termes de transparence ou d'opacité, ça change?
Non, les gens sont tellement habitués les uns aux autres, se connaissent. Je ne pense pas qu'on puisse trouver dans le marché à la criée du LME. Je ne pense pas qu'on puisse lui reprocher quoi que ce soit.
Qui sont les acteurs qu'on retrouve justement au cœur de cette criée
des vous trouvez des traders
qui travaillent pour des fonds, des banquiers.
Vous trouvez des traders, vous trouvez des bras armés de producteurs, vous trouvez des banquiers, bien entendu. Vous trouvez tous ces gens-là qui sont intéressés à produire un signal de prix.
Et je crois que pendant une période, Didier Julienne, certaines banques commerciales ont racheté des sociétés spécialisées dans le commerce de physique de métaux, mais visiblement, elles s'en sont un peu détournées. Qu'est-ce qui s'est passé et quel bilan est-ce qu'on peut faire de la présence de ces banques commerciales dans le marché des métaux?
Je trouve que c'était une époque formidable.
Pourquoi
Parce que, comment dirais-je, à une époque, les marchés des métaux, et on en parlera sans doute tout à l'heure pour l'or, étaient l'œuvre de petites maisons de courtage, n'est-ce pas, qui œuvraient sur l'or, l'argent, etc. Tout d'un coup, ces maisons ont été rachetées par des grandes banques qui ont commencé à s'intéresser, pour des raisons d'investisseurs, aux commodities, au marché des matières premières. Et par la suite, ces grandes banques se sont dit, bon, on a maintenant qu'on a l'information, on peut faire des opérations et on peut en faire pour nos clients et aussi pour nous-mêmes. Donc c'était de la spéculation pure et dure, mais après tout, elles sont faites pour ça, ça ne gêne personne pour autant que les prix restent transparents. Mais tout d'un coup, elles se sont dit, c'est pas suffisant. J'ai besoin, pour avoir encore plus d'informations, là on rentre dans des problèmes d'intelligence économique, plus j'ai d'informations, plus je suis agile et plus je fais de bénéfices. Pour avoir donc plus d'informations, j'ai besoin d'acheter une mine, une centrale électrique, des pétroliers, une usine de raffinage, etc. etc.
Ce qu'elles ont fait,
bien entendu. Et là, on a eu des banques qui étaient 5. Hein. Moi, je les ai comptées, les 5 meilleures, que je nommerai pas par charité chrétienne aujourd'hui, étaient vraiment des outils formidables dans les mains de ces banquiers, pour eux-mêmes et pour leurs clients. Ils arrivaient quand même à savoir beaucoup de choses. La crise de 2008 est arrivée. Et à ce moment-là, on dit, bon, quand même, vous avez une présence un peu trop pesante sur les marchés. On fait un règlement. Vous n'avez plus le droit d'être opérateur physique. Donc certains ont vendu, par exemple, les stocks du LME qui leur appartenaient aux États-Unis ou dans d'autres parties du monde. D'autres ont vendu des pétroliers.
Le LME, je ne laisse pas passer parce que les auditeurs ne savent pas, et en particulier ceux qui nous rejoignent, le London Metal Exchange.
Oui, pardon. Le marché des métaux de Londres dispose de stocks de métaux, de hangars qui sont disposés un peu partout dans le monde, mais ces hangars n'appartiennent pas au marché. Ils appartiennent à des privés qui sont chargés, eux, de livrer ou de faire rentrer les métaux dans ces hangars. Et ça crée parfois des files d'attente. Files d'attente qui, lorsque vous en connaissez la longueur, vous permettent de prendre des positions si vous êtes banquier. Et à ce moment-là, vous rentrez dans un jeu de gestion de l'information qui vous permet de faire de belles opérations.
On est toute cette semaine dans un monde sous perfusion métallique, c'est le sujet cette semaine qu'on a retenu dans Culture Monde. Aujourd'hui, on est avec Didier Julienne, on parle de ce marché des métaux, un marché pas comme les autres. Vous écoutez France Culture, il est 11h, presque 29 minutes.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
L'heure pour nous de retrouver une nouvelle invitée, on va s'intéresser en particulier à l'aluminium. Bonjour Florence Achèze-Leroy.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en histoire à l'université d'Artois, chercheuse à l'EHESS. Vous avez écrit un certain nombre d'articles et d'ouvrages sur l'aluminium, notamment un ouvrage intitulé « L'âge de l'aluminium » que vous aviez co-écrit, co-dirigé avec Yvan Grimbert. Vous y racontez comment une poignée d'acteurs du secteur de l'aluminium se sont entendus pour protéger le marché et s'entendre sur ses prix. Vous retracez l'évolution de cette entente stratégique. Alors, on va faire un peu d'histoire justement avec vous, Florence Achèze-Leroy. On est au début du XXe siècle, on a cinq grands producteurs d'aluminium qui vont se retrouver au sein de l'Aluminium Association, qui est créée en 1901. Il y a deux sociétés françaises, un Suisse, un Anglais et puis un Américain. On peut parler de la création d'un véritable cartel, c'est le mot que vous utilisez. Finalement, pourquoi, Florence Achèze-Leroy, ces acteurs décident-ils à ce moment-là de s'associer plutôt que de jouer le jeu de la concurrence? Et jusqu'où va leur coopération?
Alors la décision, elle est assez simple. C'est que c'est une période où le marché de l'aluminium est encore très fragile, pas très important, et le prix du métal fluctue énormément. Donc c'est une entente sur les prix. L'idée est de stabiliser le marché. Il est également de se répartir des marchés à l'exportation. Et puis, idée un peu originale de ce cartel, il s'agit aussi de développer les usages de l'aluminium, donc de mener des recherches sur la transformation en aval de façon à développer le marché.
Sur le plan du droit, c'est une entente qui est possible, autorisée, légale?
Alors, en Europe, elle est possible. C'est une société qui est installée en Suisse. La Suisse étant un peu le paradis des cartels, il l'est toujours d'ailleurs. Et de fait, oui, c'est tout à fait légal à ce moment-là en Europe. Ce que l'on voit sur cette période, c'est qu'en revanche, les Américains vont s'en retirer très tôt, puisque aux États-Unis, la législation contre les trusts est beaucoup plus sévère.
Donc le cartel organise un peu l'entente sur les prix, on se partage aussi le marché. Et puis pendant quelques années, faute d'entente justement sur les prix, cette association va s'arrêter. Mais très vite, dès 1912, elle renaît de ses cendres, mais pas pour longtemps, parce que la Première Guerre mondiale passe par là et y met un terme. Et puis au lendemain de la guerre, on avance encore un peu, Florence Achèze-Leroy, les producteurs se retrouvent à nouveau lors d'une conférence et les bonnes habitudes vont reprendre. On s'entend à nouveau sur les prix, on se partage les marchés. Et puis à nouveau, les divergences vont se faire jour à la fin des années 1920. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sur quoi portent les désaccords entre Européens et Américains?
Alors, en fait, le problème, c'est que voilà, à rester entre soi avec ces cinq sociétés historiques, elles bloquent le marché et puis surtout elles font des conditions aux outsiders qui ne sont pas acceptables. Et puis certains de ces outsiders, comme le Canadien Aluminium Limited, ne veut pas entrer dans cette entente et de fait fait ce qu'on appelle du dumping sur les marchés. Donc on a une forme de déstabilisation, si je puis dire, du marché, parce que certains nouveaux venus dans le monde de l'aluminium ne souhaitent pas se soumettre aux règles du cartel international.
On avance encore un peu dans le temps, Florence Achèze-Leroy, la Seconde Guerre mondiale met un terme à cette association, et au sortir de la guerre, on a un nouvel ordre mondial qui s'installe, qui va totalement transformer les choses, puisqu'on va être beaucoup plus hostile finalement au cartel, en particulier dans la législation américaine, mais en réalité en Europe aussi, avec le traité de Rome qui va introduire de nouvelles règles. Résultat, l'Europe met en place un nouveau dispositif de coopération interne à l'Europe, hein.
Oui, tout à fait. Alors, le traité de Rome est effectivement un moment majeur puisqu'il lutte contre les ententes, encore qu'il accepte certaines ententes, ce qu'ils appellent positives. Hein. C'est pas aussi rigide qu'aux États-Unis. Et là, les producteurs européens vont devoir, eux, s'organiser différemment avec le soutien aussi des pouvoirs politiques qui ont besoin que l'Europe puisse se construire. Donc on a des organisations plus informelles, ce qu'on appelle des syndicats. Il y en a aujourd'hui qui s'appelle l'EA, la European Aluminium Association. Voilà, tout ça va se structurer progressivement par secteur, la production, la transformation, le recyclage. Ce tableau-là, avec une particularité dans l'aluminium, hein, c'est que les prix sont vraiment fixés par les producteurs et jusqu'en 1978, ils ne participent pas du tout aux transactions.
Alors justement, j'allais y venir, on approche doucement de la période récente et puis ensuite je ferai intervenir notre invité ici, Didier Julienne, mais y compris en Europe, on va doucement glisser donc d'une organisation oligopolistique vers un régime de concurrence. Et la rupture se fait en 1978, lorsque l'aluminium fait son entrée au London Metal Exchange, justement, le marché de référence, un peu incontesté, de cotation des métaux non ferreux, alors que cette bourse existe depuis très longtemps à l'époque, hein, depuis 1877. Le cuivre y est échangé depuis 1877. Qu'est-ce qui change à ce moment-là, en 1978, quand l'aluminium arrive sur ce marché londonien? Et finalement, pourquoi les acteurs du secteur de l'aluminium acceptent d'abandonner l'ancien régime?
Oh, ils n'acceptent pas de plein gré.
Ils sont contraints.
Ils n'ont pas le choix. Ouais. Voilà, ils n'ont pas le choix. Et effectivement, tout ça se passe aussi dans un contexte où on voit de nouvelles entreprises émerger. Bon, la chute du mur de Berlin va également contribuer en fait à l'arrivée massive de métal sur le marché européen et puis dans un second temps sur le marché américain. Et à partir de ce moment-là, on va avoir la mise en place d'ailleurs d'une entente, cette fois-ci accompagnée par les pouvoirs publics pour préserver le prix de l'aluminium pour pas pas que les entreprises européennes et américaines mettent la clé sous la porte. Donc, en fait, effectivement, on est au tournant des années 80 dans un changement qui ne concerne pas seulement l'aluminium. C'est l'arrivée du monde de la finance, hein, comme votre invité a pu déjà l'exprimer, et l'aluminium va à son tour être touché par cette ingérence, si je puis dire, de la finance dans les affaires industrielles. Et puis, c'est le début de bouleversements énormes dans le monde de l'aluminium, c'est-à-dire que les cinq acteurs historiques vont progressivement céder la place à d'autres producteurs.
Et si on regarde. Mais attendez, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Pourquoi il y a d'autres nouveaux producteurs qui peuvent arriver? Est-ce que c'est précisément ce que vous indiquiez, c'est-à-dire l'arrivée, en tout cas la montée en puissance d'acteurs financiers qui vont transformer le secteur? Est-ce que c'est le fait, peut-être si on remonte un tout petit peu avant, à 1978 justement, d'introduire l'aluminium dans le London Metal Exchange? Qu'est-ce qui est à l'origine de la restructuration finalement de la filière?
Je pense que ce sont différents facteurs qui convergent. C'est-à-dire à partir du moment où les producteurs n'ont plus la main sur le prix, forcément leurs marges de bénéfices s'en trouvent affectées. Par ailleurs, on voit l'émergence de nouveaux acteurs. Donc après la chute du mur de Berlin, c'est Rusal par exemple en Russie qui va devenir aujourd'hui c'est le premier producteur mondial. Hein, c'est énorme. Idem du côté de la Chine. On voit l'émergence au fur et à mesure de producteurs. Et puis au tournant des années 2000, le secteur aussi du Moyen-Orient, hein, le Bahreïn par exemple, qui devient un très très gros producteur d'aluminium avec des usines tellement importantes qu'elles rendent obsolètes en fait les usines anciennes par leur capacité de production, par le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie est fondamental hein, dans l'aluminium. Donc lorsque, comme en France, on doit renégocier le contrat avec Électricité de France, le coût de l'énergie est beaucoup plus élevé que à Bahreïn où là l'approvisionnement en pétrole est plus facile. Donc voilà, il y a des différences, ouais. Je dirais, nationales très importantes.
Vous restez avec nous, je fais réagir Didier Julien. C'est vrai que c'est intéressant aussi, Florence Haché-Leroy nous disait à l'instant que l'aluminium, c'est un secteur qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de pétrole. Et en réalité, on voit, enfin, j'ai eu l'impression qu'il y avait une corrélation entre le prix du pétrole et le prix de l'aluminium. En tout cas, on voit quand il y a des fortes tendances haussières, on les retrouve dans l'aluminium. Et pareil pour les tendances baissières, je me trompe, non, Didier Julien?
C'est pas exactement ça. L'aluminium, ouais. C'est de l'électricité solide. C'est de l'électricité solide.
Mais il faut du pétrole pour.
Non, vous pouvez très bien fabriquer de l'électricité avec de l'eau. L'hydroélectricité. C'est ce qui coûte le moins cher. D'ailleurs, c'est pour ça que Rusal est le premier. Rusal a des barrages que j'ai visités en plein milieu de la quand je travaillais en Russie. Rusal a des barrages en plein milieu de la Sibérie, quasiment à la frontière avec la Chine, immense. Et là, c'est là que sont les usines. C'est quand même très curieux. Il n'y a pas de production d'alumine là. Hein, il n'y a pas de bauxite. Il n'y a pas de mine de bauxite à côté. La bauxite, elle vient du Vietnam. Elle vient d'Afrique. Elle fait tout le chemin via le Kazakhstan. Elle arrive en plein milieu de la Sibérie. Pourquoi? Parce que l'électricité est pas chère. L'aluminium, c'est de l'électricité en barre, si je puis dire, ou solide. Et pour en revenir à ce que disait votre invitée, elle a tout à fait raison. Les métaux d'abord ont tous une petite association du nickel, de l'aluminium, qui parfois est dans des pays exotiques ou parfois.
Là, c'est pas une association, c'est carrément un cartel dont vous parlez. Mais
vous parlez d'un cartel. Moi, je parle d'association. À une époque, elles ont toutes une association qui s'interdit en général de parler de prix. N'est-ce pas? C'est marqué dans les statuts, mais qui.
Ils le font parfois quand même.
Qui font parfois quand même et qui parlent d'autre chose, n'est-ce pas? Tous ces métaux, à un moment, ont été gagnés par le London Metal Exchange. Parce que les consommateurs, il ne faut pas les oublier, en ont eux aussi besoin.
Merci beaucoup en tout cas à notre invitée Florence Haché-Leroy. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire à l'université d'Artois. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette histoire, sur la vie et la mort de ce cartel de l'aluminium, vous pouvez vous retourner vers cet ouvrage que vous avez co-dirigé avec Yvan Grimbert, L'âge de l'aluminium, qui était paru chez Armand Collin. Merci beaucoup. Encore un petit mot peut-être avant de nous tourner vers notre invité Philippe Erlin qui est avec nous et qu'on va retrouver dans un instant. C'est vrai que dans les acteurs, quand on regarde un peu le secteur des métaux, on a beaucoup de très grosses multinationales, Vale, Rio Tinto, Glencore, BHP. Est-ce qu'il y a de la place pour des petits acteurs? Oui. Ou est-ce que finalement le ticket d'entrée est beaucoup trop élevé?
Non, il y a de la place pour les petits acteurs. J'étais moi-même président d'une société d'exploration minière qui œuvre en Europe. J'ai cédé la présidence il y a 3 semaines pour des questions d'organisation, mais nous explorons en Europe. Il y a donc de la place pour des tout petits acteurs. Il y a de la place pour des acteurs moyens, tout simplement parce qu'ils se spécialisent sur un métal et que la mine n'est pas très grande ou le gisement n'est pas assez grand pour pouvoir intéresser un très grand.
Et est-ce que le processus de financiarisation du secteur profite justement à ces petits acteurs? Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux?
Non.
À mesure que ça se financiarise?
Au contraire, c'est très compliqué pour les petits acteurs d'attirer l'œil des financiers pour financer leur exploitation, parce que les grands acteurs, eux, peuvent justifier ou plutôt rassurer un investisseur avec d'autres mines qui sont déjà là. Un petit qui se lance ou qui a une idée ou qui a découvert un gisement qui est prometteur, ce sera vraiment, il faudra qu'il traverse 2 fois la vallée de la mort avant de pouvoir réussir son opération.
On va s'intéresser au marché de l'or, évidemment un marché très particulier.
America today has the best opportunity in this century to achieve 2 of its greatest ideals.
Aujourd'hui, l'Amérique a la meilleure occasion du siècle de réaliser 2 de ses idéaux majeurs: garantir la paix pour toute une génération et créer une prospérité nouvelle loin de tout conflit. J'ai demandé au secrétaire Connally de suspendre temporairement la convertibilité du dollar en or. Cette action va avoir pour effet la stabilité du dollar. Cette décision ne va pas plaire aux courtiers en devises.
15 août 1971, le président Nixon qui décide de la fin de la parité entre l'or et le dollar. Il met un terme au système imaginé à Bretton Woods à la fin de la guerre. Et pour autant, évidemment, l'or n'est pas redevenu un métal comme un autre. Il reste ce qu'on appelle une valeur refuge, particulièrement prisée en temps de crise. Comment comprendre la mécanique du marché de l'or? On va essayer un tout petit peu d'y voir plus clair avec Philippe Erlin. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, chargé de cours au Conservatoire National des Arts et Métiers. Et puis vous aviez publié, c'était il y a quelques années, l'or, un placement d'avenir. On peut peut-être commencer par dire que l'or, évidemment, n'est pas un métal comme un autre, notamment en ce sens qu'il n'est pas directement une matière première, comme le pétrole, par exemple. C'est une matière inaliénable et en fait assez peu utilisée par l'industrie. Donc l'or, c'est d'abord une valeur avant d'être une matière première, ce qui rend évidemment son marché tout à fait à part, Philippe Erlin.
Oui, effectivement, il n'y a que 10% de l'or qui est utilisé concrètement comme matière première, essentiellement pour l'industrie électronique, mais 90% c'est de l'or d'investissement, c'est-à-dire des pièces et des lingots, et puis autrement des bijoux. Mais même pour les bijoux, il faut comprendre que les pays qui en achètent beaucoup, c'est notamment l'Inde et la Chine, c'est aussi comme placement, c'est-à-dire en Inde notamment, il y a un taux de bancarisation très faible, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès au secteur bancaire.
Et donc ils achètent de l'or.
Les bijoux en or, c'est acheter, c'est une façon d'épargner, en fait. Donc les bijoux en grande partie dans le monde, on peut les considérer comme de l'or d'investissement, au même titre que les lingots et les pièces.
Alors officiellement, on l'entendait, Philippe Erlin, le dollar et l'or ne sont plus dans un rapport de parité fixe. L'or continue de jouer un rôle dans le cours de la monnaie, et inversement, c'est un rôle central dans les investissements et un rôle dans les fluctuations monétaires. Jusqu'où est-ce qu'on peut dire justement que le niveau de valeur de l'or est corrélé aux variations monétaires? Quel lien est-ce qu'on peut établir entre les variations du dollar et celles de l'or?
C'est-à-dire le dollar est aussi considéré comme une valeur refuge. Donc en général, les deux peuvent évoluer de façon différente. Mais l'or reste aussi un élément de sécurité par rapport à l'inflation. Et on l'a vu d'ailleurs juste après que Nixon ait déconnecté le dollar de l'or. Il a promis aux Américains qu'il y aurait de la stabilité monétaire. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Il y a une explosion de l'inflation dans les années 70. Et le cours de l'or a monté considérablement. Ce qui fait que ceux qui ont acheté de l'or ont été parfaitement protégés contre l'inflation. Donc la valeur de l'or, c'est ça. C'est par rapport à l'inflation ou par rapport à des crises bancaires. Voilà, c'est une valeur refuge.
Ouais, l'histoire nous montre effectivement que quand l'inflation augmente, mécaniquement, la valeur de l'or augmente aussi. On entend parfois l'idée, Philippe Erlin, que les banques centrales manipulent le cours de l'or, ou en tout cas qu'elles évitent que sa valeur ne progresse trop vite, dans un sens ou dans l'autre, en vendant des quantités ou en achetant des quantités sur les marchés pour enrayer la hausse. Qu'en est-il réellement? Et est-ce qu'on peut parler d'une manipulation des cours de l'or?
Ce qui est sûr, c'est que les États et les banques centrales ne veulent pas que l'or monte trop rapidement, parce que c'est interprété comme un désaveu de leur politique monétaire et de la monnaie dont ils ont la charge. Donc il ne faut pas que l'or monte trop. On l'a vu en 2011, quand l'once d'or a approché les 1 900 dollars, les 2 000 dollars, voilà, les banques centrales se sont un peu énervées et le cours de l'or a ensuite baissé. Et ce qu'on remarque régulièrement sur le marché de l'or, c'est que quand le cours de l'or commence à monter un peu rapidement, tout d'un coup, on assiste à des ventes d'or papier très importantes, ce qui est complètement illogique, parce que si vous avez une quantité importante, il vaut mieux la fractionner plutôt que de faire chuter les cours. Voilà, à ce moment-là, vous perdez de l'argent, quoi. Mais non, on assiste régulièrement à ce genre de vente express qui casse un peu la hausse de l'or.
Et est-ce que ça veut dire, Philippe Herlin, qu'on peut postuler l'hypothèse selon laquelle, sans l'action des banques centrales, l'or aurait progressé de façon beaucoup plus significative?
Il aurait progressé plus significativement, mais ceci dit, il ne faut pas non plus tomber dans la théorie du complot et considérer que l'or est mis sous l'étouffoir. L'or se tient bien, il monte un peu, là, il est à $1,300, mais il n'explose pas parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, les gens croient aux banques centrales et il n'y a pas de crainte d'inflation. Donc, il n'y a pas non plus de raison que l'or explose. Ceci dit, le cours de l'or est quand même surveillé comme le lait sur le feu par les banques centrales et les États, même s'ils n'osent pas l'avouer, ça c'est clair.
Alors, encore une question, Philippe Herlin, et puis ensuite je ferai réagir notre invité ici, Didier Julienne, mais l'année dernière, quelque chose qui s'est passé qui me semble important. La Chine a lancé un dispositif de contrat à terme, c'est-à-dire des engagements de livraison sur un actif à une date définie, sur le pétrole, libellé en yuan, mais directement convertible en or physique. Ça, c'est une évolution visiblement que Pékin préparait depuis longtemps. Alors, comment l'expliquer? Est-ce que c'est pour pallier un manque de confiance des pays exportateurs de pétrole vis-à-vis de la monnaie chinoise? Et est-ce que c'est pas finalement le retour de l'or dans le système monétaire international?
Alors, c'est un début, mais ça marque surtout la volonté de la Chine de s'éloigner du dollar et de faire du yuan la monnaie du commerce en Asie. Mais ceci dit, par rapport à l'or, franchement, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est que l'or physique se déplace vers l'Asie. Parce que les banques centrales ont arrêté, les banques centrales d'Europe et États-Unis ont arrêté de vendre de l'or, elles fait un peu. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que les banques centrales, notamment de la Chine, achètent de l'or. Et les particuliers chinois et indiens achètent de l'or et ils sont encouragés par les États, notamment en Chine. Et il y a une volonté de la Chine d'augmenter ses réserves d'or. Tout l'or qui est produit en Chine n'est absolument pas exporté. Il reste sur place et ils en achètent à l'extérieur. Et il y a une volonté de la Chine de ne plus dépendre uniquement du dollar pour ses réserves de change, mais d'avoir de l'or au cas où le dollar connaîtrait des problèmes.
D'avoir de l'or en barre dans ses coffres.
Voilà, de l'or en barre concret.
Mais attendez, ça va avoir une conséquence, Philippe Herlin, a priori. On peut se dire que cette tendance-là, elle va faire augmenter encore la valeur de l'or. Moi, j'ai lu, je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais en préparant cette émission, certains experts nous disent que l'or pourrait grimper à 5 000, 10 000 dollars l'once, sachant qu'on est à peu près aujourd'hui, vous le disiez, à 1 300 dollars l'once. C'est possible une telle augmentation?
C'est tout à fait possible. Maintenant, moi, je ferai pas de prévision parce que c'est
bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais puis tout le monde va se mettre à en acheter en plus.
Mais tout à fait c'est tout à fait possible dans la mesure où ce qu'il faut comprendre, c'est que toute notre économie est construite sur de la dette. Il y a beaucoup de dettes publiques et privées aux États-Unis, en Europe, en Chine aussi, dans les pays émergents. Il y a un peu trop de dettes. La dette mondiale publique et privée, c'est 324% du PIB mondial. C'est un chiffre énorme et toute cette dette-là, bon, aujourd'hui elle est soutenable parce qu'on est à taux zéro ou très faible, donc les charges d'intérêt sont pas trop lourdes, mais si les taux d'intérêt se remettent à monter, ce qu'on commence à percevoir ici ou là, ça va être extrêmement dur pour beaucoup de grosses entreprises, pour beaucoup de pays et pour des banques. Et quand il y aura des banques ou des pays qui commencera à tomber, là je peux vous garantir que le cours de l'or va se mettre vraiment à monter, quel que soit ce que pourront tenter les banques centrales.
Didier Julienne, réaction sur ce marché de l'or.
J'approuve totalement tout ce que vous dites. L'or a cette particularité de n'être la dette de personne. Lorsque vous prenez un billet de banque, c'est tout de même la dette de votre banque centrale. Lorsque vous prenez un lingot d'or, c'est la dette de personne. C'est fondamental d'avoir quelque chose en main qui ne pourra pas être réclamé ou dévalorisé sous prétexte que la banque centrale, par exemple, fait faillite. N'est-ce pas? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en ce qui concerne les variations...
Pardon, mais quand on achète de l'or et quand on le revend, on est taxé sur la plus-value qui est faite.
Tout dépend des pays. En France, oui, bien sûr.
Non pas que j'en ai ou que j'en ai eu, mais c'est ce que j'ai lu.
Oui, non, mais bien sûr.
Très bien, mais...
Non, mais bien sûr. Et puis, le jour où vous voulez dépenser cet or, vous pouvez l'échanger contre quasiment n'importe quoi. Si vous avez un lingot d'or, c'est peut-être plus compliqué, mais si vous avez des pièces d'or et qu'un jour vous souhaitez acheter la batterie qui est à côté de moi là dans votre studio ou une voiture dehors, je suis persuadé que vous trouverez un vendeur. Donc ça n'est la dette de personne. C'est extrêmement important comme notion à comprendre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, or et dollar, la liaison entre l'or et dollar, la liaison inversée, l'or monte, le dollar baisse et l'inverse, a été vraie pendant de très nombreuses années. La crise que nous avons eue a transformé cette relation entre valorisation dollar et certainement or et taux d'intérêt réel. Et lorsqu'on regarde le taux d'intérêt réel du dollar vis-à-vis de l'or, on s'aperçoit qu'il y a quand même des variations qui sont tout à fait parallèles. Mais j'ai le sentiment que ce lien entre or et taux d'intérêt réel va de nouveau recéder la place à une valeur entre l'or et la valorisation du dollar. Et pour terminer, j'avais préparé quelques chiffres et je vous en donnais juste deux. La valorisation du marché de l'or à hier, lorsque je regarde la quantité produite dans l'année et le prix de l'or, est de 188 milliards de dollars environ. Hein, à quelques centaines de milliers de dollars près. Eh bien, je regarde la valorisation du marché du Bitcoin. À hier, nous étions à 193 milliards de dollars. Et ce marché du Bitcoin a évolué depuis sa création jusqu'à son plus haut, de 15 à 356 milliards de dollars, de 15 à 356. Donc actuellement, on est à peu près au milieu. Oui. Et si, lorsqu'on regarde le marché du Bitcoin, on s'aperçoit que les banques centrales sont tout à fait contre ce marché parce que justement, elles n'en maîtrisent pas du tout la valeur, alors qu'elles peuvent maîtriser la valeur du marché de l'or, comme ça a été dit tout à l'heure. C'est donc un aspect extrêmement dangereux pour elles.
Didier Julien, on arrive presque au terme de cette émission. Je disais presque en plaisantant à Philippe Erlin à propos de cet or qui pourrait peut-être, en tout cas certains experts nous le prédisent, grimper à des niveaux de 5 000, 10 000 dollars. Bon, évidemment, il faudra attendre pour voir si c'est vrai. Mais si vous étiez un particulier, est-ce que vous achèteriez-vous peut-être d'autres métaux? Je ne sais pas, du cobalt par exemple?
Écoutez, moi en tant que particulier, j'ai de l'or dans mon portefeuille. Tout simplement parce que ça m'amuse et je trouve que c'est une bonne idée. Acheter du cobalt, c'est déjà prendre des risques un peu plus compliqués.
Vous ne le feriez pas?
Si, le cobalt, ça, je l'aurais bien fait. Oui, si, à une époque, d'ailleurs, j'ai écrit qu'il fallait le faire. Mais je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas trouvé le véhicule à ce moment-là.
Merci beaucoup à tous nos invités. Philippe Erlin, qui était avec nous par téléphone. Je rappelle, Philippe Erlin, que vous êtes économiste chargé de cours au Conservatoire national des arts et métiers et auteur de cet ouvrage, L'or, un placement d'avenir. Merci à vous Didier Julien de nous avoir accompagnés, de nous avoir éclairés sur ces marchés des métaux. Je rappelle que vous êtes stratège en ressources naturelles et professeur à l'école de guerre économique. Pas encore de livre, quand est-ce que vous publierez un livre de sorte à justement ne plus critiquer ceux des autres?
Oh, c'était pas vraiment une critique.
Je plaisante. J'écris énormément dans les journaux. Blague à part, pourquoi pas écrire
énormément dans les journaux. Je trouve que c'est gratuit et ça m'intéresse de diffuser ça. Je vous remercie d'être de France Culture, c'est ma radio préférée, donc je suis content d'être là aujourd'hui.
Et on était ravis de vous accueillir, merci infiniment. C'est avec ce très beau morceau Black Metal choisi par Benjamin Hu qu'on se quitte. On s'intéressera à nouveau demain aux métaux pour l'heure, 11h53.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Vous nous parlez cette semaine du Brexit. La presse de ce matin fait état du succès de Michel Barnier, le commissaire européen en charge des négociations de départ de la Grande-Bretagne. Il n'a fallu que 2 minutes au ministre des 27 pour approuver les lignes directrices qui vont organiser les relations nouvelles entre l'Union européenne et le Royaume-Uni à partir du 29 mars 2019. À ce moment-là commencera la phase 2 du divorce. La phase 1 est donc une réussite, Brice?
Eh ben pas sûr, car les conclusions de cette phase 1 comportent au moins une impossibilité logique. Les Européens se sont prêtés au jeu, écrit Mark Leonard, en laissant la première ministre britannique faire semblant d'affirmer que son pays pouvait respecter les 3 conditions qui lui sont imposées. Mais ces 3 buts concernant l'avenir des relations du pays avec l'Union européenne sont, d'après le directeur de l'European Council on Foreign Relations, mutuellement contradictoires. Alors voyons lesquels. Le premier, c'est de maintenir ouverte la frontière entre l'Irlande du Nord, autrement dit l'Ulster, et la République d'Irlande elle-même. Les Britanniques s'y sont engagés, on s'en souvient, lors de l'accord du vendredi saint d'avril 1998. Les biens, les services, les capitaux et les personnes pourront donc continuer à circuler librement entre les deux Irlandes. Oui, mais le deuxième est d'établir des régulations, notamment commerciales, valables pour la totalité du territoire de la Grande-Bretagne, distincte de celle de l'UE, donc. Et le troisième est de reprendre le contrôle de ce même territoire en négociant donc des accords commerciaux avec l'Union européenne, en rétablissant donc des frontières douanières et en soustrayant les juridictions britanniques au contrôle de la Cour européenne de justice. Mais comme le font remarquer tous les commentateurs avisés, il s'agit d'une impossibilité logique. Comme le souligne par exemple l'économiste Anatole Kaletsky, on ne saurait laisser ouverte la frontière entre les deux Irlandes tout en reprenant le contrôle du cadre juridique de la Grande-Bretagne. Si les normes juridiques de l'Union européenne s'imposent en République d'Irlande et que les produits, services et capitaux peuvent continuer à circuler librement entre l'Ulster britannique et l'Aire britannique, républicaine, pardon, il n'y a pas de contrôle possible. Dans ces conditions, écrit encore Kaletsky, un hard Brexit, scénario dans lequel la Grande-Bretagne se dégagerait des régulations européennes et ne se soumettrait plus dans ses relations commerciales avec l'Europe qu'à celles prescrites par l'OMC, est devenu impossible. C'est donc un des non-dits de cette négociation.
Mais si le hard Brexit promis par Theresa May à ses électeurs est impossible, ce sera donc un soft Brexit, que Theresa May l'admette ou non.
Eh bien Florian, même cette voie-là est très étroite.
Ah.
Un soft Brexit par lequel les Britanniques conserveraient, mettons, les bénéfices commerciaux de l'accès complet au marché européen sans les obligations politiques qui vont avec, c'est également impossible. Parce que les négociateurs européens ont prévenu, il n'y aura pas de réadhésion à la carte. Pas de cherry picking, comme on dit joliment en anglais, pas de picorage des cerises. Alors, quels sont les scénarios disponibles, vous me direz? Eh ben, les Britanniques les plus optimistes estiment qu'il en existe au moins deux. Et ils les ont baptisés Norvège moins et Canada plus. Norvège moins, le Royaume-Uni conserverait tous les avantages du marché unique, libre mouvement donc des biens, des services et des capitaux, tout en reprenant le contrôle des mouvements de population, y compris en provenance des États membres de l'Union européenne. Norvège moins, parce que ce pays européen n'est pas membre, on s'en souvient, de l'Union douanière, il peut donc déterminer sa propre politique commerciale, mais il a accepté la liberté de mouvement des personnes en provenance de l'UE. Mais on ne voit pas comment ce scénario, quand bien même l'UE en accepterait la possibilité, pourrait être conciliable avec le renoncement britannique à une frontière commerciale entre les deux Irlandes. Nous y revoilà. Ou bien le Royaume-Uni quitte l'Union douanière et rétablit la frontière entre l'Ulster et l'Air, ou bien, comme il s'y est engagé, il ne le fait pas et de facto, il reste donc intégré à cette union douanière. À moins que ne se dessine le scénario de la petite Grande-Bretagne, qui se limiterait donc à l'Angleterre et au Pays de Galles, l'Irlande du Nord rejoignant la République d'Irlande et l'Écosse accédant à l'indépendance afin de demeurer dans l'UE. Si l'objectif du Brexit était de rétablir la grandeur du Royaume-Uni, ce serait là un résultat assez consternant, vous l'avouerez. Alors maintenant, le scénario Canada+. Il implique la signature entre le Royaume-Uni et l'Union européenne d'un accord commercial inspiré du CETA, cet accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Dans ce cadre-là, le pays retrouve, comme il le souhaite, le plein contrôle de sa politique migratoire. Il quitte et l'union douanière et le marché unique, et il renégocie l'ensemble de ses accords commerciaux avec l'Union européenne. Il est assez facile d'imaginer un traité de libre-échange sur les biens, car il serait dans l'intérêt des Européens, mais bien plus hasardeux de miser sur leur disponibilité dans le domaine des services. Dans ce cadre, en tout cas, le Royaume-Uni échapperait au contrôle juridictionnel de la Cour européenne de justice, ce qui est l'une des exigences majeures du gouvernement britannique.
Merci beaucoup Brice Couturier. Il y a un scénario que vous avez oublié, c'est celui où il n'y aurait pas de Brexit.
Oui, il y a Tony Blair qui plaide un peu pour ça, mais
absolument.
On voit mal comment les Britanniques pourraient revoter et changer d'avis. Enfin,
en tout cas, ça fait partie du monde des possibles.
Oui, absolument.
Merci beaucoup en tout cas Brice Couturier. On peut retrouver bien sûr vos chroniques sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.